Français.
Sauf événement imprévu.
Les rumeurs, les calomnies, les ragots.
Les armes vont parler.
Nous sommes dans l'antre des Bolettes. Il y a trois journalistes, l'une en herbe, Fanny Chatchat,
oh oui,
l'autre en place, Gwenaël Guerlevé, le dernier en embuscade, Jacques Molena. Tous trois sont là pour nous, pour vous, dans Provoscopie, et nous les en remercions. Allez, une petite Provoscopie, que ce soit là, pour tous les deux, et, ou pour Fanny aussi. Est-ce que c'est raisonnable de prétendre être objectif quand on est journaliste ?
Ah non, mais là, tout à l'heure, on en a parlé, mais pour moi, un journaliste n'est jamais objectif. Il s'efforce d'explorer la réalité de manière honnête, de la restituer, mais c'est imprégné de subjectivité. Mais ce qui n'empêche pas d'essayer, de découvrir, et de restituer la réalité.
Enfin, tout le monde parle d'objectivité, sauf les journalistes, j'ai l'impression. Enfin, quand je pose des questions, que j'essaie de savoir un petit peu là, comment vous pratiquez, tout le monde répond, c'est pas possible d'être objectif, soit par comme vous
dites, c'est l'évidence.
Les choix éditoriaux, ou même par le choix d'un simple mot, des fois, qui est forcément connoté. Donc, est-ce que c'est pas une image un peu qu'ont les journalistes comme ça pour l'audience, ou qui disent, oui, il faut qu'ils soient objectifs.
Mais en fait, ça me paraît honnêtement, c'est une tarte à la crème, qui est tranchée.
Mais le mot reste encore revient quand même beaucoup quand on dit oui, pour toi, c'est quoi un journalisme ? On me répond souvent ça.
Parce que c'est un fantasme, et donc les fantasmes ont la vie dure.
Oui, non, mais je crois que c'est un vrai problème de définition. Parce que, initialement, être objectif, c'est quoi ? C'est examiner une situation comme on examine un objet que l'on va décrire, analyser, décrypter, etc. Être subjectif, c'est en faire quelque chose d'actif, c'est-à-dire être un sujet, c'est-à-dire celui qui agit sur les choses. Donc, pour moi, les journalistes sont tous les journalistes, mais pas que les journalistes, les historiens, puisque ça a été cité tout à l'heure, mais les philosophes, les sociologues, tous les gens des sciences humaines, pour aller vite,
les sciences humaines, oui,
sont des gens qui sont par nécessité objectifs, c'est-à-dire ils vont examiner les phénomènes comme des objets. Et les décrire avec les instruments dont ils disposent. Qu'après, ils donnent une opinion personnelle, qu'ils infléchissent leur analyse en fonction de ce qu'ils pensent plus globalement par rapport à l'objet qu'ils étudient, moi, ça ne me choque absolument pas. Quand moi, je peux lire un journal qui ne correspond pas forcément globalement aux idées que je défends, je vais vous donner un exemple. Je pense qu'il y a d'excellents articles et d'excellents éditos dans un journal comme le Figaro, qui est pour moi un grand journal. C'est-à-dire c'est un vrai journal qui donne une opinion. Hein. Je sais en lisant le Figaro ce que probablement j'ai comme base, disons, idéologique qui le sous-tend. Mais de la même manière que l'Humanité ou de la même manière qu'un autre journal. Donc je pense qu'il y a un faux débat sur l'objectivité. J'ai l'impression qu'en fait, on attaque des journalistes qui ne seraient pas objectifs sous le prétexte qu'on ne trouve pas dans le texte fait par ce journaliste ce qu'on attend de l'événement. Donc, en fait, je pense que ce sont les lecteurs qui ne sont pas objectifs. Je suis un peu provocateur en disant philosophiquement et éthiquement que c'est ça le vrai problème.
Alors, si on en revient
et notamment les hommes politiques.
Si on en revient à
il y a un autre élément qui joue beaucoup, c'est, j'en reviens à ça, l'enquête. Moi, je considère qu'il y a des enquêtes qui paraissent dans le Figaro qui pourraient très bien passer dans Libération. Parce que justement, on est sur un autre terrain que l'affirmation d'une opinion. On explore la réalité, mais si on le fait honnêtement, ça peut passer.
C'est très anglo-saxon, ça, quand même. Oui.
Alors justement, la presse d'investigation. Jacques Molena, comment est-ce que tu fais quand tu vas à la pêche à l'info ? Quelles sont tes motivations ? Pourquoi aller chercher des infos là plutôt qu'ailleurs ? Est-ce que le rôle de la presse serait de patauger dans le marigot des pouvoirs obligatoirement ? Ou est-ce que ça peut être encore autre chose ?
Ça va me couler à la peau jusqu'à la fin.
Le marigot des pouvoirs, c'est deux.
C'est
tome 2.
C'est quoi les motivations ? Comment tu fais concrètement ?
Pour aller à l'info. Pour moi, il y a un moteur fondamental, c'est la curiosité. Je pense que l'âme d'un journaliste, c'est la curiosité. Et cette curiosité doit être la plus vaste possible, la plus large possible, et se traduire par des rencontres avec des gens qui savent. En général, on peut partir du fait que le journaliste, au départ, ne sait rien, pas grand-chose. Mais il va apprendre, et il aura le désir de partager la connaissance qu'il aura recueillie. Et donc, alors, la méthode la plus simple, c'est la rencontre. Donc, et la rencontre de gens qui sont des personnages ressources, comme on dit, des gens qui ont l'expérience et qu'on interroge, qu'il faut interroger évidemment intelligemment, de manière à ce qu'ils traduisent vraiment ce qu'ils savent.
Est-ce que c'est pas là où le journaliste justement passe de spectateur à acteur ? Spectateur quand il fait l'enquête et acteur quand il écrit l'article ?
Ah oui, mais même, oui, c'est, c'est pas faux. Mais en même temps, la rencontre, dans la rencontre, on est acteur aussi. On pose pas n'importe quelle question à n'importe quel moment.
Justement, on va prendre, si tu veux bien, un exemple concret te concernant. Pourquoi est-ce que tu as fait de la franc-maçonnerie locale ton fonds de commerce ? Et d'autre part, est-ce que tu penses pas que les francs-maçons d'ici, parce que Languedoc, se servent de toi autant que tu te sers d'eux ?
C'est pas exclu. Il y a des francs-maçons qui m'ont dit oui, tu m'as cité, mais j'ai des frères qui, eux, ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas, eux, été cités. Donc, la relation avec la maçonnerie est assez compliquée.
Tu ne crois pas que tu te fais manipuler par les francs-maçons ?
J'ose espérer que non.
Non, mais question. Mais
je ne voudrais pas être... Non, parce que la manipulation vient quand il y a une seule source. Mais quand tu multiplies les sources, quand tu multiplies les interlocuteurs, la diversité de l'information annule les possibles manipulations de l'un ou de l'autre. Mais comme la maçonnerie dans cette région est extrêmement diverse, entre les obédiences, les attaches partisanes, même à l'intérieur des loges...
Oui, donc c'est le nombre de loges sur Montpellier.
Ouais. On ne peut pas parler d'une homogénéité de la franc-maçonnerie manipulant des journalistes. Bon, en même temps, tu parles de mon fonds de commerce, mais j'ai au moins 5-6 fonds de commerce, dont celui-là, c'est vrai.
Ça veut dire que s'il y a une telle diversité, une non-homogénéité, ça veut dire que le degré d'influence de la franc-maçonnerie avoisine le zéro.
Ah, mais j'ai fait une interview avec Gwenaël où j'avais dit que le pouvoir de la franc-maçonnerie était largement fantasmé. Donc... Tout simplement en raison de cette hétérogénéité. Puis, sous la Troisième République, les francs-maçons pouvaient livrer des projets de loi clé en main à leurs frères de l'Assemblée nationale. Cette période-là est terminée. Donc,
on n'est plus à l'époque de Neuwirth, quoi.
Est-ce qu'on pourrait dire que les francs-maçons ne sont pas un réseau, du moins sur Montpellier ? Au sens réseau...
Si on prend les choses globalement, oui. Maintenant, à l'intérieur de la maçonnerie, fonctionnent des réseaux. Dans le dossier qui va paraître sur les municipales de Montpellier, j'essaie de cerner le rôle de réseau franc-maçon, mais pas de la franc-maçonnerie.
Oui, ça, on va en parler d'ici quelques minutes. Juste avant, je voudrais qu'on prenne un exemple, justement, de qui manipule qui, comment et pourquoi, etc. Exemple, en 2010, bon, l'Express, dans lequel vous aviez fait un article, a laissé croire ou laissé entendre que Georges Frêche était antisémite, par l'entremise de votre plume, sous le prétexte qu'il aurait dit que Fabius avait une tronche pas très catholique. Et là, en l'occurrence, est-ce que c'est informer ou former les lecteurs, parce qu'on était en pleine élection régionale, et là, faute d'avoir des remords, est-ce que vous n'avez pas des regrets là-dessus ?
Oui, non, je vais vous dire...
Et quand je dis vous, c'est Jacques Molina d'un côté, l'Express d'autre part, quoi. Bon, parce que Frêche, on pouvait dire tout de lui, sauf le fait qu'il était antisémite. Quoi.
Donc cette phrase, Frêche l'avait prononcée en conseil d'agglo un petit peu avant la fin de l'année, je crois que c'était le dernier conseil d'agglo de l'année 2009. Bon, et elle était passée inaperçue, or Georges Frêche tenait à ce qu'elle soit répercutée. Il y avait des journalistes, il leur avait dit, notez bien, ça fera une puce. Et bon, il y en a eu une, mais...
Oui, enfin, entre une puce et puis un article dans l'Express,
Non, mais l'article de l'Express ne portait pas là-dessus. Mais,
où c'était...
Ça n'a été répercuté que dans Direct Matin. Et moi, je l'avais effectivement retenu, parce que ça me paraissait intéressant comme réflexion. Et je l'ai intégré dans un... dans un portrait qui faisait 4 pages dans l'Express, et il y avait 2 lignes répercutant
en note de bas de page. En note de bas de page.
Non. La phrase était dans le texte.
Il y avait une petite étoile.
Voilà. Alors il y avait ça a été fait ça à l'Express où pour souligner l'intérêt à leurs yeux de la phrase, ils avaient rappelé que Laurent Fabius était d'origine juive dans une famille
convertie
au catholicisme. Ce qui est effectivement donné à ce moment-là une tonalité antisémite. Et moi, je n'étais pas d'accord avec cette note de bas de page.
Tu étais au courant qu'il a fait cette note de bas de
page ? Non, justement, moi, je l'ai découverte après.
Est-ce que là, tu n'as pas été manipulé, là ?
Quelque part,
rectifié à Solferino.
Comment c'était rectifié à Solferino ?
Avant que l'article ne paraisse.
Ah non, ça je crois pas. Non. Ça a été fait par le rédacteur en chef adjoint qui était surpris honnêtement surpris par la tonalité de la phrase. Bon,
sa femme travaillait à Solferino, c'est vrai ou pas ?
Non. Ça, enfin bon, je connais pas tous les dessous de l'affaire, mais je crois pas que ça a été fait en accord avec une manipulation concoctée avec Solferino.
Pour conclure presque sur cette chose-là, dans une interview que tu avais donnée à Gwenaëlle il y a quelque temps, il y a deux ans, tu disais, y a des choses qu'on ne maîtrise pas en écrivant un article.
Mmh. Ah bon ? Non mais si on fait référence à ce truc-là, c'est vrai que...
Et je crois que ça faisait référence à ça.
C'était ça, oui, ça faisait référence à ça.
Mais ceci dit, il faut donner quand même une explication à cette phrase de Georges Frêche. Mon interprétation à l'époque, c'était qu'une partie de l'électorat de Georges Frêche venait du Front National. Et que ça ne lui était pas indifférent de laisser entendre que... Enfin, de prononcer une phrase qui avait un écho dans cet électorat-là. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre.
Moi, je ne veux pas apparaître ni comme objectif, ni désengagé, mais il faut rappeler quelque chose. Premièrement, la réaction de Georges Frêche, c'est une réaction à une déclaration de Laurent Fabius, précédente, qui dit « Moi, si j'étais électeur en Languedoc-Roussillon, je ne voterais pas pour ce mec. » Première chose. Deuxièmement, j'engage nos auditeurs, et que j'espère de plus en plus nombreux, à lire un petit bouquin qui a été écrit par une journaliste du Monde, qui a fait une émission qui est passée sur Arte, qui s'appelait « L'enfer de Matignon ». Ouais. Dans ce petit bouquin, paru en livre de poche, il y a... donc l'histoire, c'est la série des premiers ministres, en gros, de la Ve République, pour aller vite. Et à chacun est posée 3 questions. La première, c'est 1. Comment avez-vous appris que vous étiez Premier ministre ? Deuxièmement, quel rapport aviez-vous avec le président ? Alors, ça va de Mesmer à une période plus contemporaine. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il y a à un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une information qui vous échappait complètement ? Le chapitre Fabius est très intéressant quand on lit ça. Je rappelle, donc, pour ce qui était dit tout à l'heure, Laurent Fabius donc, a une tronche pas très catholique, dixit Georges Frêche. Ce qui est intéressant, quand on lit l'interview de Fabius, il apprend qu'il est Premier ministre, arrive l'affaire du Rainbow Warrior, bateau de Greenpeace coulé par les services secrets français dans le port d'Auckland, pour ceux qui auraient la mémoire courte. Et Fabius découvre ça dans la presse, c'est ce qu'il dit. Donc il demande un rendez-vous immédiat à François Mitterrand. Et François Mitterrand, en gros, le renvoie dans ses buts. En disant, écoutez, comment démerdez-vous, voyez le patron du SDEC, etc. pour les trucs. Et Fabius dit textuellement, il dit, vraiment, je me suis rendu compte que n'ayant pas prise directement sur l'événement, ce truc me paraissait pas très catholique. Je vous renvoie au livre donc qui s'appelle L'enfer de Matignon. Regardez, c'est très intéressant.
Ça avait été sorti d'ailleurs à l'époque, au moment des.
Oui, je sais qui a trouvé cet article dans cette émission et dans le livre. Il s'appelle Jean-Pierre Foubert.
D'accord.
Mais ça a été répercuté.
Absolument.
J'ai même vu un article dans Midi Libre.
Absolument.
Oui.
On va parler d'actu, là, d'actu véritablement, parce que tu sors un dossier dans l'Express la semaine prochaine, enfin l'Express va sortir mercredi, sur les municipales à venir en 2014. Et là, avant qu'on aille plus loin sur le fond de l'article, là, sur ce coup-là, qu'est-ce que tu veux faire ? Informer ou former ?
Ah, mais surtout pas former. Alors là, mais informer, oui.
Si j'osais, je dirais, bon, tu roules pour qui, là ?
Non, mais je roule pour les lecteurs. Je souhaite qu'ils soient informés et qu'ils sachent ce qui se passe aujourd'hui dans la préparation des futures élections municipales.
Voilà. Tu as utilisé combien de W là,
j'ai vu exactement tous les acteurs de...
Parce que préparant l'émission, j'étais étonné, justement. J'étais attentif aux 5 W. Et dans ce dossier donc, qui sort mercredi, mais effectivement, j'en ai pas vu 5, j'en ai vu 4. Le pourquoi tu ne le donnes pas. Et là, je dirais, ce dossier est d'une objectivité extraordinaire, puisque
tout le monde ne dira pas ça.
Tu dis qui, tu dis où, tu dis quand, tu dis comment.
Mais il pose les choses. Tu
n'expliques pas pourquoi. Mais
c'est excellent. Pourquoi je fais l'article ou pourquoi il y a des municipales?
Non. Pourquoi un tel serait avec un tel?
Je tente de l'expliquer, oui. Les relations entre les uns et les autres, l'attitude des caciques, l'attitude de tous les gens qui sont potentiellement candidats, mais qui ne le sont pas encore. Enfin,
J'ai deux questions par rapport à cet article que nos auditeurs pourront lire donc à partir de mercredi. Ce dossier, il est hyper complet. Il est quasiment totalement exhaustif. Je dirais à deux exceptions près. La première étant, tu ne parles pas du tout du réseau, du réseau homosexuel sur Montpellier. C'est près de 10 000 personnes qui, visiblement, quand même, pèsent lourd. Et notamment de Vincent Houtin, donc le président de la LGP. Quand tu cites tous les personnages divers et variés qu'il peut y avoir, Vincent Houtin n'est pas cité, alors que tout le monde, j'allais dire, est cité. Est-ce que, pour toi,
si Vincent Houtin joue un rôle dans la future élection municipale.
Étant le salarié, de Moore à l'aglo, alors qu'il pour Mandrou, visiblement, il n'est plus pour Mandrou, il est plutôt pour Moore.
Ça, c'est délicat, parce que ça veut dire qu'il y a une espèce d'inféodation au monde politique sous le prétexte qu'on est salarié de telle ou telle institution. Sur le problème de l'objectivité, ça.
Je pose des questions.
Non, mais il n'est pas exclu qu'il joue un petit rôle,
de 10 000 électeurs. Enfin, de 10 000 électeurs.
Non, je ne crois pas qu'Autain représente 10 000 électeurs. Non, il ne faut pas exagérer.
Non, et donc, il n'y aurait pas un réseau constitué homosexuel.
Il fallait affiner jusqu'à retrouver les micro-réseaux qui. Il y en a au moins 300 ou 400 sur la ville. Non, là, j'ai essayé de. D'accord. De m'en tenir
la première chose. Puis la deuxième chose, à propos justement des francs-maçons divers et variés, ou Michel Fromont, avec le Moore, etc. Et où Sorel, si on s'en réfère donc à l'article, aurait été contacté par quelques frères, etc. Pour dire, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? D'après ce que j'ai pu comprendre. Alors que tu cites tous les noms de tout le monde, tout le temps, partout. Là, il n'y a pas de nom. Froment avec Moore, ok, ça s'est identifié. Mais alors, par exemple, les autres, alors je ne sais pas, en vrac, Scheuer, il roule pour qui?
Scheuer, je ne cite pas là-dedans.
Ah non, tu ne cites pas, justement.
Non.
Donc il fait partie des non-cités qui soutiennent Sorel, qui ont demandé à Sorel qu'est-ce qu'on peut faire pour toi.
Là, j'aurais fait un bottin si...
Je dis tout à propos du cercle Mozart. Vous avez cité la totalité de tout le monde.
Oui, mais...
Les 150, si ma mémoire est bonne, en mettant un angle plus sur un tel ou un tel, mais à la fin de chaque petit article, il y avait la liste de tous les autres. Et donc, en l'occurrence,
mais c'est pas le même exercice.
Les Scheuer, les Dufour en tant que tel, et d'autres, là, ne sont pas cités, tandis que des Froment, des Boulet, des Delacroix sont cités en tant que tels. Est-ce que justement les noms cités.
C'est par rapport à leur histoire.
Est-ce que les noms cités, ce ne seraient pas ceux-là qui soutiennent Sorel? Qui sont allés voir Sorel
pour leur Delacroix, je suis sûr que non.
Delacroix. Delacroix est cité autrement, lui.
Dufour, j'ai plutôt l'impression qu'il soutient Hélène Mandrou probablement, oui, peut-être il peut soutenir l'idée de Sorel, oui. Oui, je crois qu'il serait plutôt pour le maintien du statu quo, oui.
Version Michel Passé, quoi.
Oui, mais je n'allais pas entrer dans tous les détails.
Non, mais Michel Passé, tu le cites, par exemple. Passé, tu le cites. Oui. Non, pas au titre
Passé,
de ceux qui voudraient qu'en gros, tu le traites pas comme tel, mais pratiquement, ça veut dire ça, tu le traites de conservateur, Passé. Dans le sens où on conserve les choses telles qu'elles sont, on touche à rien.
Oui, il est un peu sur la position de Dufour, oui.
Moi, ce qui me semble intéressant, dans l'analyse qui est faite depuis plusieurs semaines d'ailleurs, c'est que on avait avant un personnage qui transcendait les divergences politiques, les obédiences, les communautés, les associations, etc. Et qu'actuellement, le vrai problème, c'est la reconstruction d'un système celui-là, alors qu'aucun des leaders potentiels municipaux n'arrive à ça. Et donc, quand on parle de, par exemple, je ne sais pas, de la franc-maçonnerie ou de la communauté juive ou du monde musulman ou des grandes associations montpellierennes, on ne retrouve pas effectivement d'adhésion globale. Oui. C'est-à-dire, moi j'ai le sentiment que, y compris au Cercle Mozart, on a une diversité d'opinions qui va se retrouver dans des clans ou dans des étiquettes différentes, alors qu'on aurait pu penser qu'il y a plus de 2 ans, hein, ou 3 ans, on ait pu avoir une adhésion relativement massive.
Ceci dit, les animateurs du Club Mozart sont derrière moi, hein, que ce soit Fromont et le docteur Céroux.
C'est ça qui m'a étonné dans ton article. Moi, j'aurais plutôt eu le sentiment que si d'aventure la droite pouvait soutenir quelqu'un de gauche, ça aurait été Sorel plutôt que Moore. Et à la lecture de ton article, on a l'impression que c'est plutôt Moore qui réussirait via Montpellier Unlimited. Cette chose-là.
Parce qu'il séduit les chefs d'entreprise, notamment.
Oui, c'est ça.
Il a réussi à fédérer les chefs d'entreprise.
Pour couper l'herbe sous le pied de Sorel.
Dans la maçonnerie montpellierenne, il y a quand même aussi une maçonnerie d'affaires qui se retrouve avec Fromont, avec Céroux, et qui manifestement
Céroux, maçonnerie d'affaires, et puis Fromont, maçonnerie d'affairiste, non ?
Ah non, pas.
Je vous rappelle, on est dans la horoscopie. Hein.
Non, mais c'est intéressant par rapport à l'histoire journalistique de Jacques, qui a connu les différentes périodes, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression que se reconstitue, faussement d'ailleurs, des réseaux notabilières façon François Delmas ? Est-ce que les gens ont l'impression que parce qu'ils contrôleraient une partie de la formation du Montpellier-Rennes ou du réseau industriel, etc., est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre ceux qui éventuellement contrôlent le monde de l'entreprise, des réseaux d'influence sur Montpellier, et les électeurs, en réalité, qui sont pour 80% non montpelliérains, donc ils ne sont pas forcément intéressés à ça, et où, justement, pour reprendre un petit peu ce que je disais au départ, c'est quel est le degré d'influence de la presse sur l'information de l'électeur, pas du lecteur, de l'électeur moyen montpelliérain qui se fout de savoir si Michel Fromont a plus d'influence que tel ou tel ou que Philippe Sorel, etc. Non, donc moi je pense, enfin à titre personnel, pour bien connaître la situation locale, je pense qu'il y a une confusion de la part des hommes politiques, de la part des personnalités du monde universitaire, etc., sur leur degré d'influence sur le comportement électoral de l'électeur moyen montpelliérain, ce dont je ne suis pas persuadé.
Et puis on a l'impression que tu informes les citoyens, les électeurs, dis bon, si vous êtes plutôt de droite, Moore, ça peut le faire. Si par contre vous êtes franchement de gauche, Moore, ça ne peut pas le faire.
Non, c'est quand même paradoxal, parce que pour en revenir au lien maçonnerie, politique, etc., Le rôle aujourd'hui de la franc-maçonnerie à Montpellier, c'est de faire s'évaporer les frontières politiques. C'est l'un des obstacles de la droite à Montpellier, c'est que elle n'a pas avec elle la classe entrepreneuriale qui est largement maçonnique. Que ce soit le BTP, que ce soit la chambre de commerce, c'est des milieux actifs et souvent maçons. Et on les retrouve aujourd'hui derrière Moore.
On tous un chèque, ce qui est. Rovoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.